la littérature, ça pose la question de la relation entre le lecteur et l'objet, livre, s'il s'agit d'un livre. Et cette relation, toi, bon, Laurence, tu l'as écrit sur le mode de l'inutilité, de la gratuité. Moi, je préférais parler d'amitié. Hein, je crois, enfin, moi, j'ai, vraiment, c'est personnel. Hein, la manière dont je lis les livres et dont j'aime les livres, c'est une manière d'ami. C'est-à-dire que pour moi, l'auteur, c'est comme un ami qui vient de très loin, un ami qui est dans un pays que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. Enfin, peut-être quand je serai mort, je rencontrerai. Mais en tout cas, de mon vivant, je ne peux pas le connaître. Et pour moi, ça, c'est un lien très précieux, un lien avec le passé. Mais plus qu'un lien avec le passé, comme le lien historique, mais vraiment un lien humain, chaleureux, avec des questions, des échanges, des engueulades, des désaccords. Donc, ça, finalement, la même gratuité. Enfin, au fond, l'amitié, on n'a pas besoin d'amis, enfin, c'est gratuit. Hein, pourquoi est-ce qu'on a des amis? Alors on peut toujours dire oui, dans le besoin, c'est bien d'avoir un ami, mais c'est pas la vraie amitié, puisque si elle est intéressée, c'est pas la vraie amitié. Donc il y a l'aspect aussi désintéressé, évidemment, de l'amitié dans la relation au livre. Et alors je crois que, alors juste pour parler un tout petit peu, revenir un tout petit peu sur les symptômes là de la catastrophe actuelle, je crois qu'elle s'explique aussi par le rapport qu'on a à la mort, hein, c'est-à-dire que et au passé. Hein, bon, les hommes du passé, ils étaient monarchistes, sexistes, racistes, militaristes, colonialistes. Enfin, ils ont absolument tous les défauts qu'on cesse de dénoncer à longueur de médias aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de haine du passé, une volonté de ne pas penser à la mort, au fond, de ne pas se poser la question de la mort, qui fait que, bah, au fond, ces amis du passé, ils ne suscitent, ils sont pas sexy, hein, ils ne suscitent aucun intérêt dans le monde, enfin, disons, le monde actuel. Mais néanmoins, bon, tu dis que la littérature ne peut rien. Moi, je pense qu'elle ne laisse pas de pouvoir, au contraire, parce que chacun de nous fait l'expérience du bienfait, du bonheur. Ça ne nous rend pas forcément meilleur, mais ça nous rend heureux. Moi, j'ai vraiment, ma vie est un bonheur, en particulier grâce aux livres, grâce aux relations que j'entretiens avec mes amis, avec Pascal, avec Jeannot, avec la Bible, enfin avec un certain nombre de grands textes, avec qui je dialogue, avec lesquels je dialogue. Et alors, je crois que c'est Mauriac qui disait que un bon livre, c'est un livre dans lequel il a envie d'habiter. Hein. Et moi, pour moi, effectivement, un bon livre, c'est un livre que je relis. Ce n'est pas un livre que je lis. En général, d'ailleurs, je lis très très vite un livre, très mal. Et tout mon plaisir, c'est après de revenir, d'ouvrir Guerre et Paix à n'importe quelle page et de profiter de cette prose poétique extraordinaire de Tolstoï. Après, me débarrasser, si je puis dire, de l'intrigue qui finalement m'intéresse moins que la qualité de l'écriture. Donc, ce qui est important, si on veut garder cette possibilité, alors encore une fois, effectivement, c'est très inégalitaire, c'est très sélectif ou électif. C'est-à-dire que tout le monde, on ne peut pas vouloir que tout le monde aime la littérature, je pense, mais on peut quand même vouloir que certains puissent continuer d'aimer la littérature. Et donc, pour qu'on puisse continuer d'aimer la littérature, ben, je crois que, il faut qu'il y ait. Alors, au Moyen-Âge, c'était des monastères, hein, pendant qu'il y avait les guerres, les invasions, tout ce qu'on veut, et il y avait quand même des lieux où on conservait les livres. Alors, il faut des bibliothèques. Il faut. Tu parlais de la Bible. Effectivement, si on ouvre la Bible comme ça ne nous parle pas. Donc, il faut des passeurs. Bon, Pascal, quand il parle de la Bible, c'est aussi. On se jette dans la Bible une fois qu'on a fait son enquête sur l'humanité, qu'on a bien compris que les problèmes que l'humanité se pose ne peuvent pas être résolus par la raison humaine. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on va chercher autre chose. Et tiens, la Bible se présente. Et donc, on poursuit l'enquête en s'aidant de la manière de penser de la Bible. Et donc, je crois que ce qui est très important, c'est de garder des. C'est les, disons, bon, dans mon petit mot, là, je parlais des gardiens du temple. Et c'est important d'avoir la gardienne du temple. Alors, qui sont-ils? Je crois qu'il y a les. Alors, contrairement à ce que tu dis, bon, je n'ai pas une tendresse particulière pour l'université, parce que je vois bien combien elle peut dessécher aussi la littérature. Mais en même temps, je pense que il est important. Qu'est-ce qui, c'était Michel Charles, hein, à l'École normale supérieure, qui disait en fait, nous, les critiques littéraires, enfin, ceux qui font de l'analyse littéraire, on est les gardiens de la bibliothèque. On a notre plumeau, et puis on époussette de temps en temps les livres pour être sûr qu'ils ne s'abîment pas. Quoi. Et ça, j'aime bien cette idée, au fond, c'est que les professeurs de littérature, bah, au moins, ils gardent vivants les textes, ils les empêchent de disparaître complètement, et ils permettent à certains de devenir leurs amis. Et puis, alors, parmi les gardiens du temple, je crois que l'autre catégorie, c'est les éditeurs. Parce que à côté, et là il y a un phénomène tendanciel hein, dans l'édition actuelle, c'est-à-dire que de plus en plus les gros éditeurs font du chiffre et donc ont une politique du chiffre et donc prennent moins de risques. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de petits éditeurs. Parce que ce sont ces petits éditeurs qui, avec des acrobaties, des subventions, des trucs et des machins, arrivent à éditer des textes nouveaux. Et ensuite, bien sûr, dès que ça marche un petit peu, les gros éditeurs viennent chercher l'auteur en question chez ce petit éditeur. Mais en tout cas, il y a encore des éditeurs courageux. En général petit, mais bon, il y a aussi quand même chez les grands éditeurs des éditeurs qui se battent pour que les livres existent. Et encore une fois, je ne parle pas seulement des livres contemporains, parce que je crois effectivement, comme tu le dis, enfin tu ne le dis pas comme ça, mais je crois qu'un bon auteur, c'est un auteur mort. Bon. Parce que quand il est vivant, il y a toute l'interaction commerciale, il y a toute la rhétorique commerciale qui fait qu'il se donne une belle image de lui et que ça fausse le rapport et qu'au fond, les journalistes, quand ils en parlent, ils ne parlent que de l'auteur, ils ne parlent jamais du livre. Mais donc, parlons des auteurs morts. L'auteur qui est donc oublié, voire ignoré, eh bien, il y a encore des petits éditeurs qui ont le courage de ressortir. Alors, bon, Joubert, par exemple, hein, il a été ressorti. Voilà. Et je crois que ça aussi, ça fait partie des gardiens du temple. Et puis après, je crois que y a les familles. Hein. Alors là aussi, ce n'est pas très politiquement correct. Mais c'est important aussi de voir que ce lien d'amitié, il est aussi mimétique. Et quand les enfants voient leurs parents aimer les livres, voir que leurs parents leur lisent des livres, c'est quelque chose qui, ensuite, généralement, produit un désir d'amitié semblable et donc une envie de lire semblable. Et puis, alors, un dernier petit point, mais là, c'est pour l'ouvrir à la discussion. La question aussi est celle de l'objet livre. Hein, tu en as beaucoup parlé, mais bon, on sait tous qu'il y a la concurrence des écrans et qu'on a des liseuses. Hein, et moi, je crois, mais après, je pourrais le justifier, mais je ne vais pas le faire là, mais moi, je crois que l'objet livre est tout à fait essentiel. Il suppose un mode d'emploi. Moi, ce que je vois aujourd'hui dans mes étudiants, c'est qu'ils ont beaucoup lu sur écran et ils ne savent pas manier un livre. Ils ne savent pas lire un livre. Hein. On ne se rend pas compte parce qu'on a grandi dans les livres et pour nous, c'est une évidence. Mais il y a un moment où ça devient impossible de suivre comme ça les pages pendant 300 pages parce qu'on est habitué à un tout autre mode de consommation. On n'a jamais autant lu, au fond, hein, parce qu'on arrête, on passe notre journée devant les écrans, on lit toute la journée. Hein. Je crois que l'humanité n'a jamais autant lu qu'aujourd'hui. Mais lire dans cette contrainte qu'est le livre, c'est quelque chose qui suppose un apprentissage, contrairement moi, à ce que j'aurais pu dire il y a 10 ans. Je ne pensais pas une seconde, pour moi c'était naturel, hein, mais en fait c'est pas du tout naturel.